Merci d'avoir choisi Europe 1.
Des jeunes qui n'étaient pas forcément à la rue, mais qui se retrouvent sur un mal logement. Beaucoup nous disent, on est limite assis dans la douche à faire nos cours, parce qu'on n'a pas d'espace. Donc ils ne peuvent pas étudier correctement. On est sur une réponse d'urgence.
100 chambres d'hôtel pour les étudiants les plus précaires, de plus en plus en difficulté à cause de la crise. C'est la solution mise en place par la région Île-de-France, qui prend intégralement en charge le coût de la location. Dans ce journal, les enjeux du G5 Sahel, qui s'ouvre tout à l'heure au Tchad. La journée internationale du cancer de l'enfant, vous entendrez le message d'espoir d'un père dont la petite fille est atteinte de leucémie. Et puis c'est un chef-d'œuvre de Le Corbusier, classé monument historique. En Haute-Saône, la chapelle de Ronchamp va bientôt faire peau neuve.
Juste après ce journal, votre page sport, et puis mon invité inattendu à l'occasion des 60 ans de la 4L, voiture mythique vendue à plus de 8 millions d'exemplaires depuis les années 60. Un taulier de la vie politique française en est passionné, il nous rejoint dans un quart d'heure. Très bon réveil.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Des étudiants à l'hôtel et gratuitement. C'est la solution trouvée par la région Île-de-France pour les jeunes les plus en difficulté à cause de la situation sanitaire. Deux hôtels du groupe Accor ont mis à disposition quelques dizaines de chambres depuis la semaine dernière. À terme, il y en aura 100 dans 4 établissements. Nicolas Feldman s'est rendu dans celui de Saint-Ouen, au nord de Paris.
C'est une chambre sommaire, une fenêtre, de la peinture rose et blanche, quelques affiches au mur.
Il y a un lit, j'ai une table.
Qu'importe les douches sur le palier, qu'importe aussi la vue sur le périphérique, pour cette étudiante de 21 ans, ces 10 mètres carrés sont un refuge.
L'endroit où j'étais, c'était un studio que je partageais, je dormais sur le canapé. Il y avait beaucoup de bruit, j'avais du mal à me concentrer et c'était un peu difficile pour moi.
Sur les 50 chambres mises à disposition, 16 sont aujourd'hui occupées par des étudiants.
Là, la priorité, c'est que vous ayez un toit sur la tête.
Virginie Tremblay accueille les jeunes envoyés par les universités. Elle travaille au pôle exclusion de la Croix-Rouge.
On a des jeunes qui n'étaient pas forcément à la rue, mais qui se retrouvent sur un mal logement. Beaucoup nous ont dit qu'on était chez des amis, sauf que c'est un petit studio. Et là, avec la crise sanitaire, on est H24 les uns sur les autres et on ne se supporte plus. Ils ne peuvent pas cuisiner, ils ne peuvent pas faire leurs cours. Beaucoup nous disent qu'on est limite assis dans la douche à faire nos cours parce qu'on n'a pas d'espace. Donc ils ne peuvent pas étudier correctement. On est sur une réponse d'urgence.
Avec l'assurance pour ces étudiants d'avoir un toit au moins jusqu'à l'été.
Nicolas Feldman. En France, les hospitalisations continuent de baisser depuis 5 jours, tout comme les entrées en réanimation. Et plus de 2 200 000 personnes ont déjà reçu une première dose de vaccin. Au Royaume-Uni, ce sont 15 millions de personnes qui ont été vaccinées. Un exploit extraordinaire dont se félicite le Premier ministre Boris Johnson. C'était l'objectif du gouvernement britannique, offrir un vaccin aux catégories de personnes les plus vulnérables à la mi-février.
Dans l'actualité aussi, au volet judiciaire, un seuil de non-consentement à 18 ans en cas d'inceste, c'est la proposition du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti.
Alors que l'Assemblée se penchera jeudi sur un texte pour renforcer la lutte contre les crimes sexuels sur les mineurs de moins de 15 ans, pour le garde des Sceaux, on ne peut pas questionner un consentement avant la majorité. Et c'est aussi ce que demande pour les victimes, la psychiatre et psychotraumatologue Muriel Salmona. Elle préside l'association Mémoire Traumatique et Victimologie.
Ça change très concrètement qu'on ne va plus avoir à qualifier la contrainte, la menace, la surprise ou la violence pour dire que c'est un viol ou une agression sexuelle. Alors que là, actuellement, on pouvait considérer que puisqu'elle n'avait pas dit non, c'est qu'elle était consentante. Ça paraît complètement hallucinant, mais la loi faisait qu'on pouvait le faire. Changer la loi, c'est une partie de cet énorme chantier, mais c'est symboliquement, c'est très important de lutter contre l'impunité.
Des propos recueillis par Caroline Baudry. À noter que Muriel Salmona continue de lutter pour la reconnaissance de la mémoire traumatique et l'imprescriptibilité des crimes sexuels. Un point sur lequel Éric Dupond-Moretti souhaite une prescription graduée et échelonnée. Ce drame, hier soir dans les Ardennes, un homme et son bébé ont été découverts morts à leur domicile, probablement tués par arme à feu. La piste d'un meurtre suivi d'un suicide est privilégiée.
6h04 sur Europe 1, l'ouverture aujourd'hui du sommet N'Djamena au Tchad, un G5 Sahel aux multiples enjeux.
Emmanuel Macron y participera à distance, en ligne. Cette alliance militaire entre la France et les principaux pays d'Afrique frappés par le terrorisme islamique. Avec cette année, Didier François, un bilan très positif pour l'opération Barkhane.
Alors surtout si on compare la situation à celle de l'année dernière, rappelez-vous ce sommet du G5 convoqué en catastrophe à Pau alors que les armées du Mali, du Niger et du Burkina Faso venaient de subir une série de défaites traumatisante face à une offensive tous azimuts lancée par les groupes djihadistes. Et le président Macron avait alors décidé de muscler significativement les effectifs de l'opération Barkhane avec un renfort de 600 hommes déployés justement dans cette zone frontière entre les trois pays visés par l'offensive des islamistes. Alors aujourd'hui, les résultats obtenus sont vraiment spectaculaires. Les coups portés aux combattants de l'État islamique les ont obligés à s'éparpiller en tout petits groupes. Ils ne sont donc plus capables de monter des assauts d'envergure. La direction d'Al-Qaïda a été en grande partie décimée avec la neutralisation de son chef et de son commandant militaire. Ce qui a remonté singulièrement le moral des forces armées locales, lesquelles reviennent doucement dans les casernes qu'elles avaient abandonnées. Et le président de la République peut donc envisager désormais une réduction du nombre de soldats français déployés dans Barkhane. Mais ça prendra plusieurs mois, attention, pas trop vite, parce que s'il y a des progrès, il reste encore fragile.
Les explications de Didier François.
Le procès du chauffard de Lorient s'ouvre aujourd'hui. En 2019, ce jeune homme, Kylian, avait fauché deux enfants, dont un mortellement.
Avant de prendre la fuite pendant 9 jours, jusqu'à ce qu'il soit arrêté dans un hôtel d'une commune voisine, il est jugé à partir d'aujourd'hui devant le tribunal correctionnel pour homicide et blessures involontaires. Avec lui sur le banc des prévenus, sa passagère et ex-petite amie, poursuivie elle aussi pour non-assistance à mineur en danger. Justin Morin.
D'abord, il y a un contrôle routier qui tourne mal. Le conducteur prend la fuite et fonce à plus de 100 km/h en direction de Lorient. En ville, il emprunte la voie de bus, brûle un feu rouge et percute une voiture sur un rond-point. Au même moment, trois garçons, des cousins, discutent à la sortie d'un McDo et sont fauchés par la voiture folle. L'un d'eux meurt sur le coup, le deuxième est grièvement blessé, le troisième s'en sort miraculeusement. Des témoins leur portent à leur secours, mais pas le chauffard ni sa passagère qui repartent et disparaissent dans un quartier voisin. La jeune femme se rend rapidement, mais le conducteur, lui, va se cacher dans la campagne alentour, puis dans un hôtel de zone commerciale. Une femme de chambre finit par le reconnaître. Il s'était pourtant rasé la barbe et les cheveux. Philippe Courtois, l'avocat de la famille des victimes, accuse un homme lâche qui n'a jamais assumé ses responsabilités.
Ce n'est pas un primo délinquant, c'est une personne qui est connue de la justice pour des faits similaires, des conduites sans permis, des conduites sous stupéfiants, et qui, malgré les condamnations, n'avait strictement rien à faire des décisions qui étaient rendues à son encontre. Donc il faut une sanction ferme.
Le conducteur, âgé de 22 ans, reconnaît les faits, mais pendant toute la procédure, il a toujours juré ne pas avoir vu les enfants, sinon il se serait arrêté, dit-il. Il risque jusqu'à 10 ans de prison.
Justin Morin du service police-justice d'Europe 1.
6h07 sur Europe 1, c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le cancer chez l'enfant. Environ 500 enfants en meurent chaque année en France.
Et c'est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes après les accidents domestiques. Ludovic Brosset est le papa d'Aline, une petite fille qui a contracté une leucémie à l'âge de 4 mois. Après deux rémissions, elle a récemment rechuté, mais grâce à l'association Princesse Margot, ses parents réussissent à trouver la force de se battre au quotidien.
Un enfant en chambre stérile ne s'amuse pas. C'est pas très fun d'être dans un 5 mètres carrés, 10 mètres carrés avec une télé. Faut pouvoir les occuper, ces enfants-là. Et les soignants peuvent pas être partout. Et c'est là que les associations interviennent. C'est là qu'elles sont là pour animer, pour jouer, pour motiver, pour redresser les têtes, essuyer les larmes. Mais j'ai envie de dire, dans notre mésaventure, on a aussi une belle aventure humaine. On a cette chance d'avoir connu des gens exceptionnels, que sont les bénévoles, parce que c'est des gens qui font ça sur leur temps perso, voilà, qui ont décidé de rayonner un petit peu et donner un peu de bonheur aux enfants qui sont, eux, en forte difficulté. Faut souligner ça. Pour moi, c'est hors du commun. Sans ça, je vous dis, il y avait beaucoup d'enfants, je pense qu'ils se battraient moins à l'hôpital. Nous, Aline, elle fait partie de ces enfants, moi je dirais qu'ils rayonnent, elle est solaire, Aline. Mais elle est pas solaire que parce qu'elle a été faite comme ça. Elle est solaire parce qu'il y a des gens autour qui l'ont rendue solaire.
Voilà, témoignage plein d'espoir au micro de Victor Dolande. Et si vous voulez aider cette association, vous pouvez faire un don directement sur le site www.princessemargotot.org.
Et on en parle de cette journée de lutte et des avancées de la recherche aussi contre les cancers pédiatriques à 6h40 avec mon invité, le docteur Olivier Delattre de l'Institut Curie. On termine, Sophie Echen, avec ces échafaudages qui vont bientôt entourer la célèbre chapelle de Ronchamp en Haute-Saône, chapelle classée à l'UNESCO.
Il avait besoin de se refaire une petite beauté, cette fascinante œuvre de l'architecte Le Corbusier, construite il y a 65 ans au sommet d'une petite colline perdue au cœur de la Franche-Comté. Des travaux, enfin, disent les amateurs d'architecture, car les années sont passées par là. Arthur Mbaché.
Le monde entier vient ici contempler une chapelle, joyau de l'architecture, Le Corbusier. Le monde entier tombe sur des fissures mal rafistolées, c'est vrai, reconnaît Jean-Jacques Viraud qui va coordonner les travaux.
C'est quand même l'image de Ronchamp. On dit quand même, ils exagèrent, ils pourraient s'en occuper. On a des traces de mastic, c'est comme si on avait mis du scotch. Alors, ce qu'il faut qu'on fasse, eh bien, c'est d'ouvrir ces fissures, de les traiter par un traitement qui fait disparaître la cicatrice.
Pour superviser les travaux qui vont prendre un petit peu de temps, la Tatillon Fondation Le Corbusier, les exigeants bâtiments de France et les minutieuses équipes de l'UNESCO. Facture 2 300 000 euros, subventionnée mais pas à 100%, d'où l'appel au don du responsable local de la Fondation du patrimoine Louis-Charles Jeanroy.
C'est un peu comme pour la sécurité sociale, c'est le reste à charge. C'est ce qui reste à régler une fois que les 90% réglés par l'État et d'autres, c'est ce qu'il reste à trouver.
Les travaux seront suivis attentivement de Marseille, où vous avez la cité radieuse, mais aussi de Suisse, d'Argentine, du Japon, parce qu'un site qui sort des critères de l'UNESCO, c'est toute la liste Le Corbusier, les 16 autres exclus du classement au patrimoine mondial. Ronchamp, Arthur Elmbaché, Europe 1.
Et puis la Royal Family est sur le point de s'agrandir. Un an et demi après la naissance d'Archie, le prince Harry et Meghan Markle annoncent attendre leur deuxième enfant.
Congratulations, merci, c'était le journal de Sophie Echen, 6h10, on passe au sport.
Retrouvez le journal des sports avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes.
Et c'est avec vous, Lénaïque Monnier, à la une. Marseille en Ligue 1 s'en tire très bien après un nul à Bordeaux hier soir.
Oui, parce que les Marseillais se sont retrouvés à 9 sur le terrain après les expulsions de Balerdi et de Benedetto. Ils ont réussi à tenir le nul 0-0 pendant une interminable demi-heure. C'est presque un exploit pour Marseille. Le jeune milieu Pape Gueye nous raconte comment le groupe a tenu le coup.
On avait comme objectif de rester solide, bien groupé. C'est ce que le coach nous a demandé et c'est ce qu'on a fait. On a bien bossé, on a bien travaillé en équipe. On a montré un bon état d'esprit, ce qui nous manquait dans les matchs précédents. Voilà, on n'a pas les 3 points, on a un match nul. On était à 9, c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui et voilà, on est content du point.
Pape Gueye avec Jean-François Pérez au classement. L'OM est 9e après 25 journées, mais 2 matchs en moins. Bordeaux végète dans le ventre mou à la 11e place. Lille a repris la tête du classement malgré son nul 0-0 contre Brest. Et le PSG est 2e.
Paris qui sera à Barcelone demain, les Naïcs, coup d'envoi des phases finales de la Ligue des Champions.
Oui, une affiche dont on a désormais l'habitude. Et si Paris a assuré le minimum samedi contre Nice, c'est un Barça conquérant qui s'est affiché ce week-end. Victoire 5-1 face à Alavés avec notamment un doublé de Messi. Un Messi évidemment titulaire demain aux côtés d'Antoine Griezmann et d'un autre Français, Ousmane Dembélé, qui semble enfin épanoui physiquement et mentalement.
Je pense physiquement parce que quand je suis arrivé, j'étais tout frêle. Voilà, j'ai beaucoup évolué ici à Barcelone avec les préparateurs physiques, etc. Même ma façon de m'entraîner, la façon dont je prépare les matchs, etc. Tout a changé. Surtout sur le placement et surtout quand attaquer, quand calmer le jeu, quand faire la passe, etc. Parce que moi, j'aime bien dribbler, j'aime bien, quand j'ai le ballon, aller un peu tout seul. Ils me disent des fois de calmer, de ressortir, d'attendre un coéquipier, etc. Et de ne pas toujours aller foncer pour aller dribbler 3-4 joueurs.
Ousmane Dembélé, il fait peur avec le correspondant d'Europe 1 à Barcelone, Henri de Laguérie. Et bien entendu, soirée spéciale demain sur Europe 1 pour ce match Barça-PSG en Ligue des Champions.
Évidemment, l'autre actualité du week-end, Lénaïque Monnier, c'est le tournoi des 6 nations de rugby et les Bleus qui ont fait très très bonne figure.
Oui, victoire hier contre les Irlandais, 15-13, la toute première en 10 ans à Dublin. La France est en tête du tournoi des 6 nations. Elle avait dominé l'Italie pour son premier match. Seul le Pays de Galles, également invaincu, est à égalité avec 9 points. Et un autre Français qu'on espère voir briller aujourd'hui, c'est Alexis Pinturault. Il remet son titre de champion du monde de combiné en jeu. Est-ce qu'il va y arriver? On l'écoute.
Ce qui est sûr, c'est que c'est la même chose pour tout le monde, donc ça changera pas, et que faut mettre le fait qu'on n'ait pas fait de combiné depuis longtemps de côté, et puis tout simplement, ça reste une course.
Et qui dit combiné dit 2 manches, évidemment. La première à 11h15, c'est un super G. La deuxième à 15h20, c'est un slalom. Alexis Pinturault qui répondait à Bruno Coise.
Merci, c'était le journal des sports de Lénaïque Monnier.
C'était le journal des sports. Toute l'actu pour bien parier est sur Europe 1 avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Europe 1. 6h13 sur Europe 1. On célèbre aujourd'hui les 60 ans d'une voiture qui vous est sûrement très familière. La 4L souffle ses 60 bougies aujourd'hui. Et mon invité inattendu en est un passionné. Bonjour.
Bonjour, c'est Gérard Larcher.
Bonjour et bienvenue sur Europe 1, Gérard Larcher. On évoque votre passion toujours très actuelle pour cette 4L dans un instant. À tout de suite.
Théo Manval sur Europe 1.
Mon invité inattendu ce matin est donc Gérard Larcher, président Les Républicains du Sénat, deuxième personnage de l'État et donc conducteur assidu d'une 4L, cette voiture qui a accompagné des générations de Français et qui fête aujourd'hui son 60e anniversaire. Elle remonte à quand votre histoire d'amour avec la 4L, Gérard Larcher ?
C'était la voiture de ma mère. Elle venait nous chercher au pensionnat dans sa R4. D'ailleurs, c'était une R4 de luxe. C'était la super avec haillon arrière qui se rabattait. Et c'est avec cette voiture, d'ailleurs, que j'ai fait mes premiers pas de conducteur automobile avant d'avoir le permis, soyons clairs, dans la cour de la ferme.
Dans la cour de la ferme, et puis elle vous a emmené plus loin. Je crois que vos premiers de souvenirs, vraiment, avec cette 4L, ce sont des souvenirs de grands voyages.
Nous sommes partis, 2 copains, et nous avons fait le tour d'Espagne et du Portugal, dans des conditions, j'allais dire, assez simples.
Je crois que c'est en 1969, vous avez 19 ans et vous partez dans deux pays qui sont encore pour certains en dictature. Je pense à l'Espagne.
Ils sont tous les deux, mais c'est une découverte assez extraordinaire de pays qui vont rejoindre la démocratie. Quand on aura signé nos études de vétérinaire, ces pays seront rentrés dans la démocratie. C'est un souvenir très fort pour moi de ce déplacement. Notre R4 avait bien du mal à suivre des camions qui fumait beaucoup, ça s'appelait Barreros, la marque du camion espagnol à l'époque.
Oui, dans les montées, ça devait pas toujours être facile. Je crois qu'elle vous a même servi un petit peu de dortoir à certains moments, cette 4L belge.
Et on a surtout couché à côté de la 4L, soit dans des fossés tranquillement. C'était un été formidable.
50 ans après, je crois que vous l'avez toujours, cette même 4L belge, elle a tenu le coup depuis le temps.
Aujourd'hui, c'est une voiture de collection.
Oui, c'est devenu votre voiture fétiche. Comment vous l'entretenez?
Ben, je l'entretiens avec un petit garagiste, je l'entretiens un petit peu moi-même, mais je ne suis pas très doué. Mais quand on reprend la brochure de la Renault R4 de l'époque, il vendait avec sécurité et robustesse mécanique. Je peux vous dire que c'est deux qualités, 60 ans après, que je peux confirmer.
Et d'autant plus que vous l'utilisez encore, notamment les week-ends, je crois, pour aller à la chasse. Est-ce que c'est vrai?
Dans la région de Rambouillet, tout le monde connaît ma R4. Ça m'arrive d'aller dans des manifestations officielles et tout le monde la connaît. D'ailleurs, quand je la garde dans une rue, parfois les gens me laissent un petit mot sur le pare-brise.
Vous sortez de la 4L avec votre écharpe tricolore. Ouais. Pourquoi est-ce que cette voiture?
Non, mais c'est la voiture. Mais on fait tout dans une 4L. C'est aussi mes souvenirs de jeunes vétos. Vous savez, les médicaments dans des caisses qu'on emmène, le matériel de chirurgie vétérinaire rurale. Ça ne tombe jamais en panne, ça démarre tout le temps. Là, il vient de vivre une épreuve, il a fait moins 10 la semaine dernière, deux nuits ici. Elle a démarré au quart de tour samedi.
Et vous le disiez, c'est la voiture à tout faire. Pourquoi est-ce qu'elle suscite un attachement aussi fort chez vous?
D'abord parce que c'est vraiment, pour moi, un symbole familial. Ma première voiture de véto, et puis beaucoup de souvenirs avec les uns les autres. Alors je reconnais, pour quelqu'un qui fait un quintal comme moi, sortir de la 4L, c'est simple, mais il ne faudrait pas que je prenne 15 kilos de plus, quoi. Hein.
Comme tout ce qui revient à la mode du vintage, Renault pourrait relancer la 4L en électrique, Gérard Larcher, en 2025. Même volant façon années 60, même gabarit, hein, je suis désolé, les mêmes phares bien ronds. Est-ce que vous vous dites banco ou pas touche au bon vieux moteur essence qui tousse un peu au démarrage?
Non, mais je dis banco. D'abord, si on revient à la 4L, je crois que c'est une voiture qui s'est vendue à plus de 8 millions d'exemplaires.
Exactement.
C'était une voiture en plus accessible. Et c'est une voiture qui, pour moi, rend immense service. Naturellement, je pense, même si j'ai fait les contrôles anti-pollution, que ses qualités par rapport à aujourd'hui et à nos préoccupations ne sont pas tout à fait optimales. Hein.
Elle va être un petit peu au-dessus des plafonds, je ne sais pas quelle vignette c'est, mais oui.
Demain, plutôt pour.
Bon, plus de 8 millions d'exemplaires vendus en effet entre 61 et 94, on verra si elle ressort effectivement en électrique cette 4L en 2025. Merci beaucoup Gérard Larcher d'être venu nous parler de votre passion pour cette R4.
Ah, puis pour moi, c'est le symbole de Billancourt, c'est le symbole de Renault, c'est tout ça, quoi. Et aujourd'hui, j'ai été à la ferme avec les R4, ça passe partout, j'étais gelé, et passe dans les chemins, et passe partout, voilà.
Merci beaucoup, bonne journée Gérard Larcher.
Allez, bonne route pour la journée, au revoir.
Europe 1, Théo Manval.
À 6h20, l'essentiel de l'actualité et l'avenir de l'opération Barkhane au cœur du G5 Sahel qui débute aujourd'hui. Un sommet entre 5 pays de cette région d'Afrique et la France. Paris voudrait commencer à réduire la voilure des troupes déployées sur place. Éric Dupond-Moretti souhaite fixer un seuil de non-consentement à 18 ans pour l'inceste. Personne ne pourra dire si la victime a 17 ans, elle était ou il était d'accord, a déclaré hier le ministre de la Justice. La mobilisation continue en Birmanie, deux semaines après le coup d'état militaire qui a mené à l'arrestation d'Aung San Suu Kyi. Malgré le durcissement de la répression, plusieurs manifestations sont en cours aujourd'hui. L'armée est toujours déployée. Et puis, Archie va bientôt devenir grand frère. Le prince Harry et Meghan Markle attendent leur deuxième enfant. Love is all that I can give. Votre 5-7 se poursuit en musique avec Nat King Cole dans la partition ciblée, signée Omblin Roche. A tout de suite.
Europe 1.
À 6h23, il est l'heure d'ouvrir la partition d'Omblin Roche avec l'un des chanteurs les plus populaires de la musique américaine depuis les années 40, un incroyable interprète avec du velours dans la voix. Nat King Cole fait partie de ceux qui ont établi les fondements, Omblin Roche, du Rhythm and Blues.
Ah oui, mais à l'origine, Théo Nathaniel Adam Coles était un prodigieux pianiste de jazz.
Let there be you. Nat King Cole naît dans le sud profond des États-Unis à Montgomery en Alabama.
Oui, fils de pasteur, il est élevé dans le respect le plus total de la religion, rythmé de chants gospel et de spirituals. Il apprend à jouer de l'orgue avec sa mère qui dirige le chœur de l'église. Sa famille s'installe à Chicago. Son frère aîné a déjà choisi la voie du jazz en devenant contrebassiste professionnel et il lui montre le chemin.
Il faut dire que Chicago est un terreau formidable pour les jeunes musiciens en herbe.
Nat Cole traîne dans les clubs de jazz, assiste aux prestations de ses idoles, le trompettiste Louis Armstrong, le pianiste Earl Hines. Il s'installe ensuite en Californie, joue au cœur d'un septet pour quelques dollars à peine, dans des locaux très enfumés et sur des pianos souvent désaccordés. Unforgettable,
that's what you are. À contre-courant, en plein âge d'or des big bands, à la fin des années 30, Nat Cole décide de former non pas un groupe multitête, mais simplement un trio.
Ses partenaires sont Oscar Moore à la guitare et Wesley Prince à la contrebasse. Lui est au piano et pas de batteur. En fait, on raconte que Nat Cole et ses musiciens sont engagés par un club de Los Angeles et que le batteur ne s'est jamais présenté. D'autres disent que le club était tellement petit qu'il n'y avait pas de place pour un quatrième musicien et surtout pas pour une batterie. Smile, though your heart is aching.
Smile even though it's breaking. Le propriétaire du club n'est pas mécontent de cette nouvelle embauche et la clientèle de son établissement ne cesse de s'accroître.
Là encore, les versions divergent. L'une nous dit qu'un soir, pour amuser la galerie, le gérant du club dépose sur la tête de Nat Cole une fausse couronne. L'autre raconte que c'est bien ce gérant qui le surnomme King, roi, mais grâce à une comptine enfantine américaine, Old King Cole.
Dans tous les cas, Omblin, Nat Cole gagne ce surnom de King.
Et un soir suivant, un client propose au pianiste virtuose de chanter. Après s'être fait prier et à contre-cœur, Nat King Cole fait entendre sa voix, une voix de miel qui fera plus tard de lui l'un des plus grands crooners américains. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game.
Nat King Cole et quatre lettres pour former le mot Love, L-O-V-E, un chanteur et un pianiste exceptionnel dont la fin de règne va être foudroyante.
Oui, fumeur intensif, il meurt le 15 février 1965 à tout juste 45 ans. Le roi Cole aura quand même eu le temps d'enregistrer son ultime album, L-O-V-E.
Merci beaucoup Omblin, on vous retrouve demain matin pour la partition L'histoire cachée derrière un morceau ou un artiste. C'est tous les jours avant le journal de 6h30. Une petite pause avant la météo et le journal de François Geffrier. À tout de suite.
Théo Manval vous informe sur Europe 1.
Et juste avant le journal de 6h30, un point sur la météo avec vous, Laurent Cabrol. Le ciel d'aujourd'hui va nous donner quelques indications sur le ciel des prochains jours.
Oui, il préfigure assez bien ce qui va se passer, vous avez raison de le dire. Alors, près des côtes de la Manche, de la pluie, il y en aura aussi dans les prochains jours, avec du vent. Un peu plus au sud des côtes, juste derrière elle, hein, sur l'Orléanais, la Bourgogne, la région parisienne, le Poitou-Charentes, l'Est. Un temps également pluvieux, mais plus espacé. Et sur Paris, ce sera pas folichon aujourd'hui. Et puis encore un cran en dessous, Poitou-Charentes, Orléans, donc, mais aussi le Massif central dans son ensemble et la région Rhône-Alpes. Et là, nous aurons un ciel relativement ensoleillé. Et puis, de plus en plus ensoleillé en allant vers le sud, sauf dans le golfe du Lion où il y a des vents marins. Les températures ce matin se situent entre moins 6 et plus 13 degrés. Mais le moins 6 ne veut rien dire, car les seules villes où il fait froid, Strasbourg, Belfort, Besançon, sont négatives. Mais après, tout est positif. 1 à Nancy, 2 en banlieue parisienne, 3 à Paris, 4 à Lyon, 6 à Bordeaux, 7 à Nantes et 13 degrés à Biarritz. Et dans l'après-midi, alors le positif l'emporte partout. Entre 5 et 10 degrés au nord et entre 12 et 18 au sud. Et ce type de temps va durer, on l'a dit. Et j'ai encore même de meilleures nouvelles tout à l'heure.
Merci beaucoup Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7, Théo Manval.
Nous sommes le lundi 15 février, très bon réveil à tous. Tout de suite, un nouveau journal, il est 6h30. Bonjour François Geffrier.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Je pense qu'on aurait dû fermer totalement les classes. Donc peut-être pas pour les lycéens, mais au niveau des primaires et maternelles, ouais.
Et non, elles sont ouvertes, les classes à Dunkerque, à une semaine des vacances. Cette ville où l'on recense proportionnellement 2,5 fois plus de contamination qu'ailleurs. Les soldats français de la force Barkhane restent indispensables pour le Mali. Point de vue d'un ancien de ce théâtre d'opération, au jour d'un sommet des pays du Sahel qui luttent contre les djihadistes. Et puis méfiez-vous des faux experts du Covid. Les arnaques se multiplient assez ingénieuses. Quelques conseils dans ce journal.
Juste après ce journal, c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre les cancers de l'enfant. Et la recherche avance, 80% des enfants atteints de cancer guérissent, viendra nous dire Olivier Delattre, pédiatre et chercheur à l'Institut Curie. À suivre aussi l'innovation du jour d'Anissé Mbida et votre revue de presse internationale. Bon réveil à tous, il est 6h30.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il s'agit de muscler le dispositif sanitaire. À Dunkerque, la préfecture a ordonné le port du masque partout. Le dépistage va être renforcé. Quant au début des cours, ce matin dans les écoles, il doit être échelonné pour éviter le brassage d'élèves et de parents.
Car l'épidémie et plus précisément le variant anglais sont en plein boom. Sur place, le reportage de Maximilien Carlier confirme une inquiétude jusque dans les hôpitaux.
On ne sait plus où mettre les malades. Voici les mots du chef des urgences du CHU de Dunkerque. Saturation à l'hôpital, patients transférés. 80% des positifs sont liés au variant anglais. Des habitants masqués désormais, puisque c'est obligatoire partout. Décision de la préfecture. Mais c'est insuffisant pour Nicole, une riveraine.
Dunkerque aurait dû être confinée. Il y a énormément de cas. Le maire a fait des démarches pour fermer les écoles et le préfet n'a pas accepté. Quand je vois qu'il y a des classes sur le Dunkerquois qui seront complètement fermées, et j'arrive pas à comprendre.
Un retour à l'école qui se fera donc de manière échelonnée ce matin pour éviter les attroupements, des parents qui doivent s'organiser. Et il y a un peu d'incompréhension chez Olivier, le papa de Jade, 7 ans.
Je pense qu'à une semaine des vacances, je pense qu'on aurait dû fermer totalement les classes. Donc peut-être pas pour les lycéens, ça d'accord, mais au niveau des primaires et maternelles, ouais.
Et certains habitants qui doivent se rendre à Lille sont invités à rester chez eux pour travailler, limiter le plus possible les contacts, c'est ce que demandent les autorités. Dunkerque, Maximilien Carlier, Europe 1.
Quant à la Moselle, où ce sont les variants sud-africains et brésiliens qui circulent fortement depuis plus d'une semaine, le département va recevoir la visite d'une équipe de marins-pompiers marseillais, devenus des spécialistes dans l'analyse des eaux usées pour y traquer le virus.
Eux s'étaient retrouvés à Pau il y a un an pour rendre hommage aux soldats français tués au Mali. Les dirigeants du G5 Sahel se réunissent à nouveau aujourd'hui et demain.
Oui, ça se passe à N'Djamena, au Tchad, même si pour Emmanuel Macron ce sera en visioconférence. Le G5 Sahel, c'est ce groupe de pays, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad, unis face à un ennemi commun, les groupes djihadistes qui sévissent dans la région, unis avec l'appui de la France. Le colonel Raphaël Bernard, qui a quitté l'armée en juillet 2020, analyse l'opération Barkhane, les 5000 soldats français déployés dans la zone, comme une réussite, en tout cas à ce stade.
Quand on parle d'enlisement, de bourbier, je conteste largement ces termes-là. Barkhane, c'est une opération positive. Tout d'abord, en termes d'effet sur l'ennemi, puisqu'aujourd'hui, ces groupes affiliés à Daesh ou Al-Qaïda ont subi des coups durs, limitant leur capacité de combat et leurs ressources. Positif ensuite sur les forces armées locales, dont les capacités et la volonté de combattre sont bien meilleures qu'il y a encore un an. Aujourd'hui, je ne pense pas que le Mali puisse se passer de Barkhane immédiatement. Le but de Barkhane, c'est véritablement de mettre l'ennemi djihadiste à la portée des forces armées locales. Ça ne doit pas durer indéfiniment. Et si nous restions trop longtemps, cela sera contre-productif. 8 ans, c'est déjà long. Je pense que c'est le bon timing aujourd'hui de penser au désengagement de Barkhane sur un horizon de 2 à 3 ans. Que Barkhane descende en effectif, reste présent, mais avec les moyens de type aviation, hélicoptère, mais que la masse de combat réduise peu à peu. Et de continuer à impliquer avec nous nos camarades européens afin que nous partagions cette charge de la sécurité du Sahel, qui est, ne nous le cachons pas, la frontière sud de l'Europe.
Le colonel Raphaël Bernard, joint pour Europe 1 par Romain Oquet.
6h34 sur Europe 1, on le sait, les escrocs sont des gens imaginatifs, car une bonne arnaque est celle qui ne va pas susciter de méfiance.
Oui, c'est ainsi qu'on voit de nouvelles formes de filouterie avec des voleurs qui profitent de l'actualité autour du Covid pour s'introduire chez vous et y voler du liquide ou des bijoux. Gladys Lafitte a quelques exemples à nous donner de ces arnaques à la fausse qualité, comme on dit, c'est-à-dire quand des escrocs se font passer pour des gens qu'ils ne sont pas.
Au mois de mars dernier, au tout début du premier confinement, les parents de Chloé sont arrêtés brutalement par une voiture à un péage. À l'intérieur, 2 hommes que ces 2 sexagénaires immigrés vietnamiens pensent être des policiers.
Il y a juste une personne qui descend et il avait un thermomètre dans les mains. Il prend la température de mes 2 parents. Il voit ma mère sortir son portefeuille. Il voit une somme. Il a fait diversion. Il avait pris le portefeuille. Mes parents ne parlent pas très bien français, donc ils ne comprenaient pas.
Montant du préjudice, 3000 euros en bijoux et en liquide. Et cela peut être bien plus quand les escrocs arrivent à entrer chez les gens, par exemple en se faisant passer pour des agents des eaux venus mesurer le taux de Covid. Des nouveaux scénarios inspirés par la crise sanitaire, imaginés par des escrocs bien connus, explique le général Marc de Tarlet, chef de l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante.
Alors ce sont des équipes très rodées qui ont pu commettre des faits beaucoup plus graves, sachant très bien qu'ils ont affaire à des personnes qui sont vulnérables pour que les scénarios fonctionnent, qui sans vergogne prendront tout l'argent et tous les bijoux qu'ils vont trouver, quand bien même pourrait s'agir de toutes les économies d'une vie.
Méfiance donc surtout pour les personnes âgées. Le général Marc de Tarlet leur donne ce conseil. En cas de doute, appelez le 17.
Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1.
On termine, François Geffrier, avec les sports et les Français qui ont brillé ce week-end au tournoi des 6 nations de rugby. Victoire 13-15 contre l'Irlande, c'est la première fois que les Bleus s'imposent à Dublin depuis une décennie.
Oui, et c'est un autre Français aussi dont on va scruter les performances aujourd'hui en Italie. Alexis Pinturo, grand favori du combiné des mondiaux de ski. Axel May nous raconte comment il a mis toutes les chances de son côté.
Pour être le meilleur, Alexis Pinturo s'est installé en hiver en Autriche, terre des champions Hermann Mayer et Marcel Hirscher, pour ne citer que. Pratique, il vit tout près d'une piste d'entraînement. Les sites des compétitions en Europe sont aussi plus proches, ce qui lui fait gagner du temps. Après sa médaille de bronze, surprise en Super G jeudi, Pintu est ainsi retourné chez lui à 3 heures de voiture. Parfois, son principal sponsor lui met à disposition un hélicoptère. Revenu hier en Italie, à Cortina, le Savoyard de 29 ans entend bien conserver son titre mondial du combiné et affiche sa sérénité.
On va dire que je m'amuse dans ce que je fais. Et puis c'est surtout que les championnats du monde, c'est des rêves de gosse où il faut savoir se saisir de cette opportunité et puis et croquer à pleines dents.
Alors c'est vrai aussi que par le passé, les gros événements ont apporté à Alexis Pinturo des déceptions, des désillusions. Mais la bête, comme il est parfois surnommé, a encore pris une autre dimension cette saison. Il est devenu la référence numéro 1. Et à moins qu'il ne parte à la faute, ses adversaires auront bien du mal aujourd'hui à le priver d'une nouvelle médaille d'or en combiné.
Axel May du service des sports d'Europe 1 et puis en football, Marseille ne gagne toujours pas à Bordeaux. Cela fait 43 ans, 5 mois et 13 jours que l'OM ne s'est pas imposé face aux Girondins chez eux. Hier soir, en clôture de la 25e journée de Ligue 1, Marseille a tout de même arraché le nul 0-0. Je dis arraché puisque Marseille a fini pendant 30 minutes à 9 contre 11.
Ce qui relève en effet de l'exploit. Merci, c'était le journal de François Geffrier. Il est 6h37.
Europe 1.
Et j'accueille l'invité de ce 5-7. Bonjour docteur Olivier Delattre.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur, directeur du CIREDO, le Centre de Recherche et de Soins pour les Cancers de l'Enfant à l'Institut Curie. C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre ces cancers. La recherche a beaucoup progressé ces dernières années. Emmanuel Macron a promis des moyens supplémentaires dans son plan cancer il y a 10 jours. L'état de la recherche aujourd'hui, vos espoirs pour la suite. On en parle dans quelques secondes. A tout de suite.
Théo Manval sur Europe 1.
C'est une cause toujours trop peu connue et où la recherche pourtant progresse. En cette journée mondiale de lutte contre les cancers de l'enfant, on va parler de ces avancées dans les traitements, des avancées qui changent des vies. Avec vous donc, docteur Olivier Delattre, directeur d'unité à l'Institut Curie. On détecte environ 2500 cancers chaque année chez des enfants. C'est la 2e cause de mortalité avant l'âge adulte. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que là, grâce à la recherche, 80% de ces enfants guérissent aujourd'hui.
Oui, absolument. Sur les 2500 enfants diagnostiqués chaque année, environ 2000 vont guérir de leur cancer. Mais il faut garder en tête qu'ils vont guérir de leur cancer souvent avec des séquelles importantes dans un nombre de cas importants.
Est-ce que le rôle de la recherche cette année ou ces dernières années a aussi permis de réduire ces séquelles post-opératoires ?
Oui, bien sûr. On essaye au maximum de diminuer l'intensité des traitements quand le pronostic est bon et qu'on sait qu'on peut guérir les enfants. Et puis, pour ceux pour lesquels on ne sait pas encore les guérir, on essaye au maximum de trouver de nouvelles thérapies moins agressives.
On va donner quelques exemples précis ce matin sur quel type de cancer on a le plus progressé ces dernières années dans les traitements.
Alors, on a progressé un petit peu sur tous les types de cancers en améliorant les combinaisons de chimiothérapie, de radiothérapie et de chirurgie qui restent à la base de traitement des cancers. Et puis, on a observé des évolutions absolument spectaculaires dans certains cancers, le fruit de nombreuses années de recherche, en particulier sur certains tumeurs qu'on appelle des sarcomes chez l'enfant, qui ont une altération génétique particulière et qu'on sait maintenant très bien cibler.
C'est parce qu'on arrive à mieux comprendre comment il fonctionne ?
Alors absolument, vous avez tout à fait raison, la compréhension des mécanismes du développement des cancers de l'enfant est absolument cruciale pour savoir exactement où il faut frapper pour éviter que la dérégulation de la cellule amène à un processus cancéreux. Et c'est là qu'on a fait des progrès considérables, qui ont dans un certain nombre de cas amené à des progrès spectaculaires dont je vous parlais, et qui dans d'autres cas sont en train, en tous les cas nous l'espérons et nous travaillons pour, à arriver aussi à permettre des traitements très spécifiques.
Ça paraît trivial comme question, Olivier Delattre, mais qu'est-ce qu'ils ont de spécifique, les cancers qui touchent les enfants ?
Ils sont très différents des cancers de l'adulte parce que c'est des cancers qui se développent sur des cellules qui sont sur un organisme qui est en développement, qui sont souvent des tumeurs donc qu'on appelle embryonnaires, qui donnent bien la notion de ce développement très précoce au cours du développement. Et ils sont en ça très différents des cancers de l'adulte, qui sont souvent des maladies du vieillissement et du renouvellement tissulaire.
Et c'est pour ça qu'il faut aussi pouvoir intervenir le plus vite possible. Il y a un enjeu de course contre la montre encore plus présent que chez les adultes.
Alors, c'est des cancers qui se développent en général très rapidement, souvent en quelques semaines ou quelques mois, ce qui est lié à leur origine embryonnaire. Hein, l'embryon se développe très très rapidement et l'enfant, les cellules poussent et se divisent rapidement et les cellules cancéreuses gardent ces capacités de prolifération assez rapide, ce qui est là aussi assez différent des cancers de l'adulte, qui sont souvent à évolution beaucoup plus lente.
Il y a peut-être des parents ce matin qui nous écoutent avec leurs enfants. Quel cancer de l'enfant on arrive aujourd'hui à guérir le plus, sur lesquels on est les plus performants ?
Les cancers de l'œil, qu'on appelle les rétinoblastomes, se guérissent très bien. Les cancers du rein, qu'on appelle les néphroblastomes, se guérissent aussi très bien. On est quasiment à 100% dans certains cas. Mais par contre, dans d'autres cancers, le traitement est encore beaucoup plus compliqué et difficile.
En cette période de pandémie, je parlais des parents à l'instant, il y a une chose aussi que j'aimerais aborder avec vous, Olivier Delattre, c'est la présence de ces parents à l'hôpital pour accompagner leur enfant soigné pour un cancer. Elle est rendue plus difficile, cette présence, par les restrictions en ce moment.
Voilà, absolument. Mais les enfants actuellement hospitalisés souffrent beaucoup des mesures d'isolement. Alors, les visites sont très limitées, elles sont limitées aux deux parents. Et puis, en même temps, pour un enfant hospitalisé, c'est très important qu'il ait un cadre de vie avec des spectacles, avec des animations, avec des activités ludiques. Et toutes ces activités sont très diminuées actuellement.
Est-ce que le chercheur spécialisé que vous êtes lance un appel ce matin à ce sujet ?
Alors, un appel, je ne sais pas, mais je pense que pour le traitement d'un enfant atteint de cancer, le milieu dans lequel il est et sa capacité à avoir une vie la plus normale possible en termes de scolarité, en termes d'amitié, en termes de relations, est un point très important. Et effectivement, tous les efforts doivent être faits pour que l'enfant puisse être dans son milieu habituel.
L'une des clés, Olivier Delattre, dans la lutte contre le cancer, c'est la recherche, bien sûr, c'est votre métier, mais aussi la prévention. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du plan cancer qui a été détaillé par Emmanuel Macron il y a 10 jours, 20% de financement en plus, notamment pour les 5 ans qui viennent, et la moitié consacrée à la recherche ?
C'est une augmentation budgétaire significative et des mesures intéressantes sur l'amélioration de la qualité de vie, l'accès à l'innovation, le suivi à long terme, en particulier pour les enfants. En ce qui concerne les enfants, je souhaite insister sur l'importance cruciale de la recherche fondamentale, parce que c'est elle qui permettra de trouver de nouvelles cibles et, en combinaison avec les industriels de la pharmacie, de trouver des nouvelles thérapies pour ces enfants.
Donc, et est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens suffisants pour procéder à tout ce qu'on aimerait faire et toutes les avancées nécessaires dans cette recherche fondamentale ?
La réponse à votre question est bien évidemment non. On n'a pas les moyens suffisants, mais il y a un progrès dans ce plan décennal, et je pense que c'est un plan décennal qui donc laisse un petit peu de temps avec pour une vision à moyen ou à long terme. Et je pense qu'en ce qui concerne l'oncologie pédiatrique, les tumeurs de l'enfant, l'attraction de jeunes chercheurs talentueux dans le monde de la recherche en oncopédiatrie doit être vraiment privilégiée.
Pour revenir à cette question de la prévention, une dernière question, comment est-ce qu'on peut encore améliorer la détection précoce de ces cancers qui touchent les enfants ?
Sur les enfants, on est confronté à une difficulté dont je vous parlais, c'est que c'est des tumeurs qui se développent très rapidement. Donc il est très difficile d'avoir une stratégie de dépistage un peu systématique. Par contre, on sait maintenant qu'un certain nombre de cancers de l'enfant, environ 10%, se développent dans un contexte héréditaire et familial. Et dans ces contextes-là, là, on peut mettre des stratégies de prévention, de dépistage. Et c'est probablement sur ces cas-là qu'il faut axer cette activité de dépistage.
Pour réduire le nombre de cancers qui sont donc, je le rappelle, la deuxième cause de mortalité chez les enfants en France après les accidents de la vie courante, d'où cette journée mondiale de lutte aujourd'hui. Mais 80% des enfants guérissent, c'est ce que vous nous avez rappelé, la recherche avance. Merci beaucoup, docteur Olivier Delattre.
Merci à vous.
Directeur du CIREDO, le Centre de Recherche et de Soins pour les Cancers de l'Enfant à l'Institut Curie. Bonne journée.
Bonne journée à vous, merci.
Europe 1.
À 6h46, 6 à suivre, l'innovation du jour avec Anissa Mbida, avec Anis et Mbida, j'arrive plus à parler, et votre revue de presse internationale, à tout de suite.
Europe 1, Théo Manval.
6h48, l'essentiel de l'actualité ce matin est sur 2 millions de bénéficiaires de l'aide alimentaire en France, la moitié y fait appel depuis moins d'un an, résultat d'une étude de l'Institut CSA pour les associations du secteur. Inquiétude à Dunkerque où le virus poussé par les variants circule 2,5 fois plus vite que dans le reste de la France. Les écoles restent ouvertes cette semaine mais les arrivées en classe doivent se faire de manière échelonnée. Et puis une nouvelle fantastique au Royaume-Uni selon son ministre de la Santé, plus de 15 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin contre le Covid. 537 000 Britanniques ont reçu leur deuxième injection.
Retrouvez vite l'innovation du jour avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
L'innovation du jour, c'est l'automatisation qui arrive dans le bloc opératoire à Nice et Mbida. On commence à voir apparaître des robots qui font des opérations tout seuls, de manière totalement autonome, sans être assistés par le moindre médecin.
Oui, des robots chirurgiens, et c'est un changement colossal. Hein. Aujourd'hui, il faut savoir que les chirurgiens se font déjà aider par des robots. Mmh. Ça leur permet de vous faire un tout petit trou dans le ventre et d'y passer des instruments microscopiques pour ensuite réaliser l'opération à travers un écran. Mais c'est toujours la main du médecin qui contrôle et le bras du robot qui exécute. Mais maintenant, il existe des robots capables d'opérer tout seul, c'est-à-dire qu'on vous met sur le billard et c'est la machine qui se débrouille.
Automatique, c'est pour quel type d'opération ?
Alors probablement seulement quelques interventions très précises et assez bénignes, comme pour traiter l'hypertrophie de la prostate. Hein, c'est le petit robot qui va passer par le tube urinaire et enlever un morceau. Hein, ça, c'est chez Procept Bio Robotics. Il y a aussi le robot Star pour Smart Tissue Autonomous Robot qui va faire toute la suture tout seul après une opération du côlon. Il y a aussi d'autres robots qui sont capables de vous faire une prise de sang, de vous poser un cathéter et même de vous faire un test PCR, donc
un
c'est
test
le robot.
PCR.
Oui, oui, il va vous enfoncer le long aiguillon jusqu'au cerveau.
Je ne sais pas si c'est rassurant. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un bug ?
Eh ben, en principe, c'est parfaitement testé, mais vous avez raison, c'est avant tout une question de confiance, parce que l'avantage du robot, bah, c'est qu'on est sûr qu'à chaque fois, l'opération sera faite de la même façon, avec le même niveau de qualité. Mmh. Donc on gomme les erreurs humaines et les différences entre chirurgiens. Mais, encore faut-il que les patients acceptent de se faire triturer par une machine. Je ne sais pas, moi, est-ce que vous serez capable d'accepter un test PCR ?
Je suis pas sûr.
Robot,
je suis pas sûr. C'est à réfléchir. L'innovation, tous les matins, 6h50. Merci Anissa Mbida.
La revue de presse internationale avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Voilà, on ouvre votre revue de presse internationale avec le réseau des correspondants d'Europe 1 sur tous les continents à 6h51. On commence en Grande-Bretagne avec vous ce matin. Anaïs Cordoba, qu'est-ce qui fait la une à Londres ?
Bonjour Théo. Eh bien, c'est une jolie photo en noir et blanc qui est à la une de la presse britannique ce matin. On y voit le couple princier, Harry et Meghan, radieux. Allongés sous un arbre, pieds nus, Meghan a la main posée sur son ventre arrondi. Un deuxième bébé est en route pour le duc et la duchesse de Sussex, titre le Daily Telegraph. Le quotidien précise, ce sera le dixième arrière-petit-fils ou petite-fille de la reine et potentiellement le premier à naître à l'étranger. Harry et Meghan vivent en Californie depuis 8 mois. Pour le Times, Meghan est bien au-delà des 3 mois de grossesse vu la forme de son ventre. Le quotidien rappelle que cette bonne nouvelle fait suite à une fausse couche sur laquelle Meghan s'était confiée en novembre dernier. Enfin, toute la presse relève le clin d'œil de cette annonce tombée un jour de Saint-Valentin. Il y a 37 ans, un 14 février aussi, la princesse Diana annonçait être enceinte de son deuxième enfant, le prince Harry.
Le sens du timing. Anaïs Cordoba, correspondante d'Europe 1 à Londres. On part maintenant aux États-Unis avec Alexis Guilleux. Bonjour Alexis.
Bonjour, bonjour à tous.
De quoi parle-t-on à New York aujourd'hui ?
Eh bien, l'acquittement de Donald Trump par le Sénat, ce verdict amplifie les divisions au sein du Parti républicain, selon le Washington Post. Un fossé entre ceux qui ne veulent plus de l'ancien président et ceux qui se prosternent encore devant lui. Mais pourquoi les républicains restent-ils loyaux à un sociopathe exilé en Floride, se demande le New York Times. Le journal dénonce un acquittement scandaleux et les ambitions cyniques de certains sénateurs qui veulent seulement gagner le soutien de la base électorale trumpiste. Donald Trump acquitté, il peut donc se représenter, mais il ne gagnera pas une autre élection nationale, assure le Wall Street Journal. Son comportement inexcusable entachera à jamais son héritage. Le procès est terminé, mais le chapitre n'est pas encore clos, avance Politico, car les démocrates souhaitent la mise en place d'une commission indépendante sur les événements du Capitole. Nos dirigeants devraient appeler à l'unité et à la civilité après ce procès, affirme la chaîne Fox News sur son site internet. Au lieu de cela, ils alimentent encore les divisions.
Merci Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. On termine cette revue de presse internationale à Buenos Aires, en Argentine, avec vous, Audevillier Moriamé. Bonjour.
Bonjour Théo.
De quoi ? Qu'est-ce qui occupe les journaux chez vous ?
Alors la presse argentine revient sur le décès de Carlos Menem hier à l'âge de 90 ans. Le président qui a marqué une décennie, titre La Nation, qui fait le bilan de ses 2 mandats à la tête du pays de 1989 à 1999. Un pragmatique qui ne cessait jamais de surprendre, écrit le quotidien en référence aux mesures prises par Menem. Il venait du péronisme, un mouvement politique volontiers associé à un État fort, et a pourtant été un fervent défenseur de la privatisation d'entreprises publiques, rappelle le journal économique Ambito Financiero. L'ex-président aux inimitables Rouflaquette a aussi été l'artisan de la convertibilité peso-dollar, une mesure aujourd'hui jugée en partie responsable de la grave crise économique de 2001. Le journal de gauche Página 12 dénonce l'amnistie qu'il a offerte aux criminels de la dictature et son implication dans des scandales de corruption. Sénateur depuis 2005, Carlos Menem bénéficiait d'une immunité parlementaire. Le journal Perfil précise enfin que 3 jours de deuil national ont été déclarés par l'actuel président Alberto Fernandez, péroniste lui aussi.
Audevillier Moriamé, correspondante d'Europe 1 à Buenos Aires, partout dans le monde, il vous raconte chaque matin l'actualité telle qu'il la vit, votre fenêtre ouverte sur le monde. C'était votre revue de presse internationale tous les matins sur Europe 1 avant le journal de 7h.
C'était la revue de presse internationale avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Europe 1.
6h54, la météo et le journal de 7h dans quelques secondes. Sébastien Krebs va s'installer, votre 7h qui démarre. À tout de suite sur Europe 1. Il est presque 6h57, très bon réveil à tous, on est ensemble depuis 5h pour un réveil en douceur et c'est maintenant le top départ de votre 7-9 d'Europe 1 qui démarre. Bonjour Sébastien Krebs.
Bonjour Théo, merci d'avoir mené le 5-7, ça va, tout s'est bien passé ?
Tout s'est bien passé, à demain 4h57.
À demain, avec plaisir.